Culture sans frontières. Anna Kubishta.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission culturelle. Marie Kinski est danseuse et professeure de danse contemporaine. Depuis les années 1990, elle partage sa vie entre Prague et Paris et bataille pour faire mieux connaître la danse contemporaine en République tchèque, pour tisser des liens et développer des coopérations entre danseurs tchèques et français. Un travail qu'elle ouvre d'ailleurs à d'autres pays dans le cadre d'un projet à dimension européenne, Correspondance Europe. C'est de cela, de ses futurs projets, de la place de la danse contemporaine en République tchèque, dont Marie Kinski a parlé pour Radio Prague, mais d'abord, elle est revenue sur ce qu'était l'association CESTA, dont elle est la directrice et fondatrice.
C'est une association tchèque, donc une občanské sdružení tchèque, comme une association de loi 1901, qui s'appelle Setkávání současného tance, d'où ces lettres qui sont en fait le début de chaque mot, en français, c'est simplement rencontre de danse contemporaine. Ça correspond en fait à un centre de développement chorégraphique. C'est exactement la même mission qu'un centre de danse chorégraphique. Sachant que le mot mission pour la culture tchèque est un petit peu étrange, parce qu'en fait, c'est moi qui ai décidé que c'était ça qu'il fallait faire et que personne ne m'a missionné pour, ce qui est typiquement tchèque comme façon de voir les choses.
Vous êtes missionnée toute seule en fait.
Je me suis missionnée toute seule en voyant les nécessités, et il se trouve que toutes les missions que je me suis données correspondent parfaitement à un centre de développement chorégraphique en France, même si j'ai fait le choix, pour diverses raisons, de ne pas avoir de lieu, mais de collaborer avec toutes les structures culturelles qui faisaient la danse en République tchèque.
Alors, de quand date cette association, et justement, quelles sont un peu les missions de cette association? Qu'est-ce que vous faites concrètement, justement, pour promouvoir la danse contemporaine?
Les premières actions que j'ai faites, d'abord, tous les projets que j'ai fait au nom de CESTA, même si auparavant ce n'était pas forcément ce nom-là, date d'il y a 13 ans. Et je me suis intéressée essentiellement à la formation des artistes, que ce soit les professeurs, les interprètes et les chorégraphes. Et à partir de ce cœur de projet, j'ai redéveloppé les différents projets qui correspondaient, à savoir aussi bien la formation continue, sous forme de stage, sous forme de laboratoire, donc développer aussi la recherche chorégraphique sous forme de laboratoire accompagné. Tout ce qui est la production chorégraphique, donc j'aide certains chorégraphes à produire leurs pièces, mais surtout je demande à des chorégraphes étrangers de venir créer des pièces avec des artistes tchèques. J'aide les tchèques à aller se former à l'étranger ou alors à aller présenter leur travail à l'étranger, donc en collaboration avec des festivals. Et j'accueille surtout des chorégraphes étrangers pour présenter leur travail en République tchèque avant que ces mêmes personnes puissent travailler en stage avec eux. Donc j'ai un peu toutes les missions d'un centre de développement chorégraphique, à savoir formation professionnelle, à savoir production de spectacles, à savoir diffusion de spectacles étrangers et locaux. Et en plus, nous faisons des projets autour de certains projets concrets de sensibilisation du public, avec des projets danse à l'école, avec des conférences dans les entreprises, avec des projets même presque en team building à destination des entreprises, tout ça pour faire comprendre des projets concrets.
Alors, puisque justement vous parlez de présentation en entreprise, ça correspond un peu à la question que j'allais vous poser. Finalement, vous avez une palette d'activités très très grande. Comment est-ce qu'un centre comme celui-ci, ou en tout cas une association comme celle-ci, fonctionne, j'allais dire très concrètement financièrement? Vous avez des sponsors privés, est-ce que vous allez glaner des subventions publiques? Comment est-ce que ça fonctionne?
Alors, on va chercher tout, bien évidemment. On va chercher les soutiens institutionnels qui sont absolument primordiaux. Donc du côté tchèque, bien sûr, ministère de la Culture, ville de Prague, les villes dans lesquelles on fait des projets divers. Ensuite, on va chercher les instituts étrangers, essentiellement français, mais aussi allemands. Et on va chercher bien évidemment aussi des subventions européennes. On a fait déjà deux projets avec dans le cadre des programmes culture. Et puis, bien évidemment aussi, on va chercher les sponsors privés pour des actions précises. Et je suis aussi à la recherche d'un sponsor qui serait, ou d'un consortium de sponsors qui serait prêt à sponsoriser l'association en tant que telle, non pas uniquement des projets.
Alors, on s'était parlé récemment, alors par téléphone, à l'occasion de deux spectacles qui étaient donnés pour le coup en France. Mmh. Vous avez fait venir des artistes tchèques. Mmh. En France, c'était un spectacle qui s'appelait Le corps baroque révélé. Mmh. Dites-moi un petit peu, puisqu'on en avait parlé avant le spectacle, comment s'est passé ce spectacle-ci. Et puis le second également, puisqu'il y avait un deuxième spectacle qui faisait pendant à quelques jours d'intervalle.
Alors, ces deux spectacles ont été présentés dans le cadre d'un projet européen que nous avons monté en collaboration avec la France, projet qui s'appelle Correspondance Europe, dans le cadre duquel nous aidons les artistes à présenter leur travail à l'étranger, d'une part. C'est dans ce cadre que j'ai invité, grâce au festival Jamais Vu de Paris, de Bagnolet plus exactement, le spectacle Le corps baroque révélé d'Andrea Milnerova, donc une chorégraphe tchèque, dont le travail a intéressé et le festival et moi-même, par l'acuité de la question qu'elle pose sur l'intérêt d'utiliser un univers référencé, qui est l'univers baroque, dans un projet contemporain. Donc, qu'utiliser d'une tradition, d'une culture passée pour notre présent d'aujourd'hui. Je trouve que c'est une question qui a une acuité particulièrement forte pour la République tchèque et particulièrement pour le baroque, ne pas le laisser dans sa poussière, mais la rendre utile pour aujourd'hui. C'est un type de questionnement qui a bien intéressé le public français. J'ai eu l'occasion après de présenter la danse tchèque, contemporaine tchèque dans son ensemble, puisque c'est quand même le but a priori du festival, et pourquoi présenter du baroque à ce moment-là. Donc il a fallu recadrer le projet dans son ensemble. Et la discussion a été, puisque c'est une présentation qui s'est finie en discussion, qui a été vraiment très intéressante. D'autant plus que le festival, très intelligemment, avait aussi présenté un chorégraphe français qui travaillait sur les bases de la danse moderne d'une façon contemporaine, et donc refaire tous ces liens pour le chorégraphe finalement était intéressant. Il a réussi, lui, à se positionner différemment sur la scène française simplement par cette discussion, d'où l'intérêt des échanges internationaux et de ce type de discussion. C'était assez fabuleux.
Alors justement, ce projet, enfin cette plateforme, on en avait un tout petit peu parlé la dernière fois au téléphone, Correspondance Europe, comment est-ce que ça s'articule justement avec l'association? Quels sont les liens? C'est-à-dire que votre association est tchèque, mais Correspondance Europe est une espèce d'extraction finalement de cette association qui collabore avec plusieurs pays en fait.
C'est ça. C'est-à-dire que CESTA, c'est une structure tchèque, donc c'est une association, centre de développement chorégraphique, qui a initié un projet européen, et ce projet fédérant différents pays, quatre pays, sur une durée de 24 mois. Donc on a commencé en octobre 2009, et on terminera donc en septembre 2011.
Donc c'est un projet à court terme, à court terme, voilà.
C'est ça, c'est un projet à court terme qui réunit des Allemands avec la Schwanghalle de Brême, Steptec Dance Project, dont est le directeur Helge Eldania, avec Jamais Vu, le festival en France, avec Jean-François Munier comme directeur, et avec une association tchèque qui s'appelle AST, ce sera plus simple, qui est menée par Petra Fornajova. Et donc nos quatre structures qui sont complémentaires dans leur but, se sont mises ensemble pour monter un projet qui soutient la création des jeunes chorégraphes dans un milieu européen. C'est-à-dire que chacun des projets est forcément présenté et organisé pour les quatre pays en même temps, même si c'est chaque pays qui organise chaque action. Donc il y a le même type d'action dans tous les pays, et tous les pays sont représentés dans chaque action. Et les actions sont organisées autour de la nécessité du développement chorégraphique des jeunes chorégraphes. Et donc, on a essayé de faire ressurgir quatre types d'actions nécessaires à différents stades d'évolution des jeunes chorégraphes. Pour nous, jeunes chorégraphes, ce sont des chorégraphes qui ont moins de 10 ans d'expérience. C'est pas une question d'âge. On peut avoir 40 ans et être un jeune chorégraphe. On peut en avoir 20 et être jeune chorégraphe, ou 50 ans et être jeune chorégraphe. Si on a moins de 10 ans d'expérience, c'est notre définition à nous. On a commencé par passer des commandes à quatre chorégraphes expérimentés pour qu'ils travaillent avec des jeunes chorégraphes qui sont dans le projet pris comme interprètes, ce qui permet à ces jeunes chorégraphes de traverser tout le processus chorégraphique d'un de leurs aînés. Ça, c'est le premier projet. C'est ce qui a été présenté à Paris donc le 2 février avec Helge Lettonia. Et c'est ce qui sera présenté aussi au mois de mai au festival à Prague et à Brno. Avec ces quatre projets-là seront présentés. Il y a le projet de Béatrice Massin, le projet de Paco Dessina, le projet de Helga Letonia et le projet de Dominique Boivin, sachant que je suis productrice du spectacle de Dominique Boivin. Ce sont à chaque fois des duos et à chaque fois les interprètes, chorégraphes, sont pris dans des pays différents.
Alors pour revenir juste à ce festival, hors micro, vous me disiez que vous alliez également faire appel à un chorégraphe français qui est installé ici en République tchèque pour ce festival en mai, qui s'appelle Pierre Nadeau. Qu'est-ce que vous projetez justement de faire avec ce chorégraphe dans le cadre de ce festival?
Alors dans le cadre de ce festival, j'ai donné carte blanche à Pierre Nadeau, qui est chorégraphe tchèque puisqu'il travaille en République tchèque, mais français d'origine et complètement français dans beaucoup de choses. Et je lui ai demandé donc de faire une sorte d'événement qui sera l'entrée en spectacle de chaque soirée du festival. Ce sera donc le fil rouge, qui sera présent à chaque soirée du festival. Et ce sera quelque chose qui va permettre au public de passer du niveau habituel de compréhension des spectacles, à savoir quelque chose qui est assez intellectuel, pour passer au niveau poétique qui nous permet de comprendre la danse. Donc il va être une sorte de pont entre la vie quotidienne des spectateurs et les spectacles de danse contemporaine qu'ils verront par la suite. C'est un duo qu'il va faire avec un Français d'ailleurs, qui est là en tant que traducteur. C'est un spectacle que je suis avec grand bonheur, parce que c'est vraiment... C'est un homme qui pense devant nous en français, avec toutes les strates possibles de traduction. Et finalement, la traduction finale, c'est que le mot n'a finalement pas autant de sens que la présence physique des gens, d'où l'intérêt de cette poétique du mot, cette poétique de la traduction et du décalage qui mène à la danse.
Alors, vous-même, vous vivez entre Prague et Paris, vous jetez des ponts entre finalement la danse ici en République tchèque, la danse en France, et puis vous citiez évidemment d'autres pays. Que vous apportent tous ces allers-retours incessants à vous personnellement, professionnellement? Je ne parle pas simplement de vos propres allers-retours physiques en avion, mais ces échanges finalement, qu'est-ce qu'ils vous apportent à vous en particulier?
Alors, ce que ça m'apporte à moi en particulier, c'est la mobilité de l'esprit. C'est-à-dire que je suis obligée de m'adapter perpétuellement et ça me permet, parce que j'ai vécu longtemps en France, j'ai vécu et travaillé longtemps en France, j'ai vécu longtemps en République tchèque en étant que travaillé que en République tchèque, donc j'ai les deux notions. Mais j'avais besoin aussi d'être nourrie perpétuellement des nécessités d'un pays et de l'autre pays et des apports d'un pays et de l'autre pays. Et du coup, je deviens quelqu'un de plus utile pour un pays comme pour l'autre, simplement par ma mobilité d'esprit.
Quels sont les autres projets que vous avez en cours? Alors, on a parlé du festival, mais plus proche de nous, peut-être en avril, en mars, est-ce qu'il y a quelques événements dont on pourrait parler à cette occasion?
Les prochains projets à venir sont à la fois des projets de formation continue, ce qui est comme le cœur du projet de Cesta, avec je vais moi donner un stage de Feldenkrais, donc comment utiliser l'analyse de mouvement pour la création chorégraphique. Ensuite, j'invite un duo, deux personnes qui vont faire un stage à destination des pédagogues, pour aider les profs à penser l'enseignement pour les petits-enfants. Donc ça fait partie du programme de développement des compétences des professeurs. Ensuite, il y a un stage qui est mené par Martha Moore sur la postmoderne danse en Amérique, qui m'intéresse énormément par la question qu'il pose de savoir ce que c'est qu'un spectacle contemporain. C'est à ce moment-là que s'est défini vraiment le spectacle contemporain. Et faire venir Martha Moore pour moi, pas uniquement pour moi parce que c'est vraiment le résultat que ça en a, c'est poser vraiment la réflexion en République tchèque avec des outils internationaux, mais pour la danse tchèque, qu'est-ce que c'est qu'un spectacle contemporain, en quoi ça consiste, comment faire un spectacle qui est vraiment de l'ordre du contemporain.
C'était donc la danseuse et professeure de danse contemporaine française Marie Kinski, qui est également directrice et fondatrice de Cesta, qui est en quelque sorte un centre de chorégraphie contemporaine. On aura l'occasion de reparler de son festival à Prague et à Brno, qui se déroulera en mai, un peu avant le déroulement de ce festival. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. À bientôt. Ahoy.
Courrier des auditeurs. Magdalena Rosinkova.
Bonjour et bienvenue à l'écoute de ce magazine diffusé depuis début février un samedi sur deux en alternance avec le tchèque du bout de la langue. Hervé Briand de Talence nous demande si cette modification touche toutes les sections. Oui, monsieur Briand, les programmes de toutes les rédactions ont subi certains changements liés à la fin de la diffusion de Radio Prague en ondes courtes. Vous avez tout à fait raison, monsieur Briand, quand vous écrivez.
Il est vrai que cette rubrique risque d'être moins fournie du fait de l'arrêt des émissions en ondes courtes et que de nombreux auditeurs, écoutant uniquement par ce moyen, n'en verront plus de rapport d'écoute, ni commentaires, ni questions. Faire vivre cette rubrique est très difficile pour vous, journalistes, mais très important pour nos auditeurs. Et si nous ne voulons pas la voir disparaître, il faudra se mobiliser et vous fournir de la matière pour l'alimenter.
Justement, cette semaine, le courrier est abondant. D'une part, vous étiez très nombreux à nous envoyer, et cela ne surprend guère, vos rapports d'écoute du 31 janvier 2011, le dernier jour de nos émissions en ondes courtes. Nous vous avons promis de vous récompenser pour l'envoi de ce rapport de réception par une carte QSL spéciale. D'autre part, certains de nos auditeurs reviennent dans leur courrier sur l'histoire de Radio Prague et des ondes courtes, tout en s'interrogeant sur les avantages et les désavantages d'Internet. Parmi ces nostalgiques des ondes courtes, il y a Christian Guibaudot de Tende en France, il écrit.
Maintenant, place aux nouvelles technologies. L'avantage sera une très bonne audibilité de vos programmes. J'ai toujours mon petit récepteur VoltSpace, de la grosseur d'un livre de poche. Cela me permet d'entendre WRN et donc d'écouter Radio Prague à certains moments. Cela est une bonne alternative à l'écoute Internet quand on est loin d'une connexion. C'était très agréable d'entendre Alena Gebertova une dernière fois à l'antenne. Je me souviens de ma rencontre avec elle dans vos locaux en été 1993.
Certains auditeurs nous disent avoir des difficultés à nous écouter via Internet. C'est le cas d'André Balbois de Narbonne, il écrit.
Ceci est ma dernière écoute avec vous par les ondes, n'ayant pas d'Internet pour le moment. Je suis vraiment déçu que certaines radios disparaissent des ondes courtes. Le progrès n'est pas toujours bon. Cela arrangera les uns pour défavoriser les autres. Cela va aussi mettre de nombreuses personnes au chômage.
Gérard Venet, qui suit nos programmes depuis le Royaume-Uni, nous a écrit.
Je ne suis pas connecté à l'Internet chez moi. Il me sera plus difficile de suivre les programmes. J'ai parfois la nostalgie des années 1970. Il y avait un tel choix sur les ondes courtes. Vos programmes me manqueront. Lorsque je ne réussissais pas à écouter celui du soir, je me mettais à l'écoute le lendemain. J'avais toujours l'impression de retrouver un groupe d'amis.
Pour Jean Barba de Beaumont, en France, l'écoute sur Internet pose carrément un problème social.
Maintenant, l'émission sur Internet s'adressera aux gens aisés, mais les nantis n'écoutent pas les émissions de ce genre. Seuls les pauvres écoutent les radios. Ils ne pourront plus.
Paul Jamet d'Argenteuil, quant à lui, constate.
Internet dépersonnalise le lien entre l'auditeur et sa radio. Internet n'est pas un média, disait Dominique Bolton, chercheur au CNRS. 12 ans après, l'Internet continue d'accroître les inégalités culturelles. 80% des pages en anglais, 1,6 milliard d'humains parmi les 7 milliards que compte notre planète ont accès sur l'Internet.
Heureusement, d'autres auditeurs ne voient pas la situation d'un si mauvais œil. Parmi eux, Maurice Étriard de Clermont-Ferrand.
Naturellement, nous continuerons à vous lire et vous écouter sur Internet. Il faut bien vivre avec son temps et avec les nouvelles technologies.
Et nous avons reçu un message sympathique de la part de Bruno Guéret de Dijon. Il écrit.
Votre station de radio m'a fait entrer dans le monde des ondes courtes lorsque pour la première fois j'ai entendu l'annonce en français « Ici Prague, Tchécoslovaquie ». C'était en 1971 et j'avais 14 ans. C'est donc avec tristesse que je ne vous entendrai plus sur mon récepteur ondes courtes, mais je continuerai à visiter régulièrement votre site internet, promis. Il faut dire qu'il est, depuis un bon moment déjà, particulièrement agréable. Il s'en dégage toute l'atmosphère de votre station.
Joël Aubois, Philippe Marsan, Hervé Briand, Michael Burzinski ou Abdelila Izou du Maroc se sont déjà familiarisés à l'écoute radiophonique sur le net. D'autres auditeurs, comme Abdelhamid Djebari d'Algérie, veulent s'y mettre. Certains de nos correspondants, comme Michel Maurice de France, nous écoutent par satellite. Évidemment, nous vous encourageons fortement à utiliser tous les moyens qui sont à votre portée pour suivre les émissions en français de Radio Prague. Nous vous encourageons également à nous écrire, à nous poser des questions, comme vous l'avez fait jusqu'à présent, pour que le lien entre Radio Prague et vous, nos auditeurs, ne soit pas coupé, comme le craignent certains d'entre vous. Évidemment, nous sommes toujours curieux d'avoir l'écho de nos émissions, de connaître votre avis sur les sujets que nous abordons. Merci à ceux qui ont déjà réagi à nos récentes émissions. Je pense par exemple à la lettre de Philippe Marson sur les balles en République tchèque et en France. Anna Kubishta reviendra sur le sujet dans le prochain numéro du courrier des auditeurs. Merci à Maurice Young, Gilles Gauthier, Fernand Maz, Marcel Kurtz qui nous ont récemment écrit. Nous saluons en particulier Jacques Augustin, notre fidèle auditeur et correspondant. Nous espérons vivement que vous trouverez, monsieur Augustin, un moyen de nous écouter. C'est tout pour aujourd'hui. Portez-vous bien. Je vous dis à la prochaine. Václav Richter reste avec vous pour les rencontres littéraires.
Rencontres littéraires. Le thriller néo-gothique, c'est ainsi que la critique a qualifié le roman « Sedmi Kosteli, les sept églises » de Miloš Urban. Ce livre où l'histoire côtoie la fantaisie et qui marie le roman gothique au genre policier a été traduit dans plusieurs langues. Récemment, il est sorti aussi en France. Ce sont les fantômes qui semblent jouer un rôle important dans la création littéraire de Miloš Urban, auteur de plusieurs ouvrages qui peuvent être presque tous qualifiés de romans noirs. L'auteur lui-même s'interroge sur les origines de ces lugubres inspirations.
D'où viennent les fantômes? Je crois qu'ils viennent justement du subconscient. Ce sont des peurs enfantines qui ne nous quittent pas, même lorsque nous sommes adultes. Au cours de ces années que j'ai consacrées à l'écriture, j'ai trouvé une excellente façon de me débarrasser de ces peurs d'enfant. Quand on écrit sur ces peurs, on arrive tout de suite à vivre plus facilement avec elles. On peut dire que l'écriture est une psychothérapie, mais évidemment, il y a beaucoup plus de raisons pour écrire.
Né en 1967 à Sokolov, en Bohême du Nord, Miloš Urban passe sa jeunesse à Karlovy Vary. C'est cependant la ville de Doxé qu'il considère comme sa véritable patrie. Il étudie à la faculté des lettres de l'université Charles de Prague, puis fait un stage d'un an à l'université d'Oxford. L'influence de la littérature anglaise se fera d'ailleurs sentir dans sa création littéraire. Le premier ouvrage de Miloš Urban, intitulé « Le point final au manuscrit », paraît en 1998. Le livre, qui se présente comme une nouvelle littérature factuelle, exploite l'affaire des plus anciens manuscrits tchèques prétendument redécouverts au XIXe siècle, mais qui étaient en réalité des faux. En 1999, Miloš Urban publie « Les sept églises » avec le sous-titre « Le roman gothique de Prague », ouvrage inclassable qui situe une intrigue policière dans la nouvelle ville, quartier pragois fondé au XIVe siècle par l'empereur Charles IV. Peu à peu, le lecteur se rend compte que ce quartier n'est pas que le simple décor d'une intrigue policière, mais que ses vieilles maisons et notamment ses églises sont des éléments essentiels de l'histoire. C'est sur cette scène que l'auteur fait évoluer le héros de son roman, Kvetoslav Švach, un jeune historien raté, reconverti en policier, homme qui n'ose même pas dire son nom. L'histoire de mes malheurs a commencé le jour où j'ai reçu mon nom, et même quand je suis né, dit ce policier auxiliaire. Cet homme extrêmement complexé est traqué par le sort, et autour de lui se multiplient les meurtres les plus cruels et les plus incompréhensibles. Ce n'est que vers la fin du livre que Kvetoslav se rend compte qu'il se trouve au cœur d'un complot horrible et qu'il assiste à une révolution silencieuse et sournoise. Il commence finalement à réaliser que devant ses yeux, l'histoire rejoint le présent et que de cette rencontre meurtrière naîtra quelque chose d'inattendu. L'atmosphère oppressante de ce roman, situé à la fin du XXe siècle, rappelle la littérature décadente et symboliste de la fin du XIXe. Miloš Urban est-il donc un décadent? Il ne cache pas ses sympathies pour les auteurs de ce genre.
Si je me voyais en cette sympathique compagnie, ce serait probablement parce que j'aime le passé et aussi peut-être parce que j'ai peur. Je crains, comme les décadents, que quelque chose ne soit en train de finir et je crains encore plus que quelque chose n'arrive, quelque chose que je n'aimerais pas du tout.
Roman d'horreur, roman gothique, roman policier, roman érotique, traité d'histoire, guide touristique, manuel d'architecture, science-fiction, humour noir. Tous ces genres coexistent dans le livre de Miloš Urban et se fondent dans un mélange original. Cette curieuse alchimie doit beaucoup sans doute à Horace Walpole, auteur du roman gothique Le Château de Trente, aux visions oniriques d'Alan Edgar Poe, à Gustav Meyrink, aux auteurs décadents tchèques Jiří Karasek et Julius Zeyer, mais aussi aux auteurs de best-sellers récents Umberto Eco et Dan Brown. Et le lecteur sent intensivement que l'auteur a subi encore une autre influence importante. C'est l'ombre omniprésente de Franz Kafka qui plane sur ce livre plein d'angoisse, de mystère et d'absurdité. Mais Miloš Urban exploite adroitement aussi l'élément policier, car il ne renonce pas à l'ambition d'amuser son lecteur et de le tenir en haleine.
Romány se začaly psát v historii proto, aby...
On a commencé à écrire les romans dans l'histoire pour amuser les gens. Et s'il y avait une valeur ajoutée, une conception personnelle de l'auteur, une vision originale du monde et de la société, même satirique, c'était toujours un plus.
C'est autour du rapport ambigu entre Vjatoslav Švach et Matyáš Gmünd, chevalier de Lübeck, que se noue l'intrigue de ce livre. Le jeune policier devient assistant de Gmünd, homme influent, énigmatique et passionné de l'architecture médiévale de Prague. Il l'aide d'abord à répertorier les monuments gothiques de la ville, avant de commencer à soupçonner que les intentions véritables de Gmünd sont infiniment plus ambitieuses. À ce moment-là, cependant, il est déjà pris dans l'engrenage des événements auxquels il n'arrivera plus à échapper. Deux femmes représentent l'élément érotique dans ce récit. Rosetta, jeune policière, elle aussi assistante de Gmünd, et Lucie, jeune mère mariée à un vieux professeur d'histoire. Tiraillé entre ces deux femmes, Kvetoslav n'en finit pas d'essuyer les échecs amoureux. L'érotisme compliqué et complexé de Kvetoslav Švach n'est cependant qu'une des innombrables facettes de ce roman qui sert à son auteur aussi pour présenter toute une série d'idées critiques et provocatrices sur la société actuelle, sur l'art et l'architecture, sur notre rapport vis-à-vis du passé et sur les dangers et les punitions qui guettent la civilisation humaine se dirigeant allègrement vers de nouvelles apocalypses. Mais laissons au livre ses mystères pour ne pas gâcher le plaisir de ceux qui se décideront à le lire. Aujourd'hui, la liste des œuvres de Miloš Urban comprend déjà 6 romans noirs. Il a déjà cherché à changer de registre, sans succès. Tout ce qu'il écrit tourne toujours au noir, seule sa méthode de travail évolue.
Jak bych to řekl, psalo se mi lehce.
Comment vous expliquer? Tout d'abord, j'écrivais avec facilité, mais ces dernières années, ça devient moins facile. Je n'ai plus ces jaillissements d'idées subites lorsque le roman vous tombe soudain sur la tête comme une pierre et que vous ne savez pas que faire avec. Vous avez l'impression que c'est une idée fantastique, mais vous craignez de ne pas savoir comment en faire une œuvre littéraire. Ces dernières années, c'est un peu différent. Les idées sont un peu plus lentes à venir et parfois, ce que je veux dire ne devient évident que tout à fait à la fin du travail sur le livre. Il est vrai que c'est un peu plus amusant pour moi. Disons que ce n'est plus de la routine.
Le roman Les Sept Églises de Miloš Urban, traduit en français par Barbara Faure, est sorti aux éditions Au Diable Vauvert. Je vous ai parlé du roman Les Sept Églises de Miloš Urban. Cette émission vous a été proposée par Václav Richter. Merci à Irena Virnochova, réalisation technique, et à Aleš Krupka, prise de son. Et la mission de Radio Prague en langue française est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi.
Radio Praga continúa ahora sus emisiones en español.